Bonjour, bienvenue à la deuxième saison de votre balado « Les petits caractères ». Je m'appelle Pierre Craig. J'ai animé l'émission La Facture durant 13 ans, alors j'en connais un petit bout sur la consommation. Les avocats d'Option Consommateur, eux, en connaissent un grand bout là-dessus. Alors ensemble, on vous présente deux fois par mois une discussion sur ce qui touche de près votre vie de tous les jours. Dans notre dernier balado, on a parlé d'une nouvelle forme de crédit qui s'appelle le paiement différé sans intérêt, qui n'est plus ni moins qu'un truc de plus pour nous faire consommer encore et encore. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on ne s'éloigne pas trop de ce sujet-là. Le réchauffement de la planète, on le sent tous très clairement. Selon une étude publiée par Energy Research and Social Science en Europe, les ménages sont responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre, et ça, ben, c'est lié directement à la façon dont nous consommons notre Terre. La même étude suggère qu'avec quelques changements, les consommateurs pourraient contribuer à près de la moitié de la réduction qu'il faut atteindre de ces gaz à effet de serre. J'en parle avec le professeur Claude Villeneuve de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, M. Villeneuve.
Bonjour.
M. Villeneuve, on va se demander dans un premier temps, là, pratiquement, là, le réchauffement climatique, les changements climatiques, ça va faire quoi sur le Québec? Prenons la période, par exemple, 2030, 2070, quelque chose comme ça. Là. De quoi ça pourrait avoir l'air?
Bon, il faut comprendre que le réchauffement, c'est une mesure à l'échelle planétaire par rapport à les moyennes du passé. Okay? Le réchauffement qu'on nous prévoit au 21e siècle, il ne faudrait pas qu'il dépasse 2 degrés Celsius pour qu'on puisse penser à s'adapter. Mais 2 degrés Celsius à l'échelle globale, ça ne veut pas dire 2 degrés Celsius au Québec, parce que le symptôme du réchauffement, c'est des changements climatiques. Et les changements climatiques, c'est, oui, une température plus chaude, particulièrement dans les latitudes nordiques, donc au Québec, plus de changements au nord du Québec qu'au sud du Québec, puis plus de changements au Québec qu'aux États-Unis et qu'au Mexique, etc. Mais globalement, sur la planète, okay. On a des changements qui vont se produire, en particulier dans le cycle de l'eau.
Si on voulait dire aux gens qui nous écoutent, M. Villeneuve, là, donner des exemples pratiques pour leur faire comprendre ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire qui va vraiment bien leur faire comprendre à quoi ça pourrait ressembler là, si on reste les bras croisés?
Disons que ça peut ressembler à une migration des enveloppes thermiques. Okay? Par exemple, à Joliette, au Québec, en 2040, on va avoir le climat qu'il y a à Laval en 1990-2000. Okay? Donc, c'est les moyennes qui bougent. Ces moyennes-là, elles comprennent des moyennes inférieures, des moyennes supérieures. Et donc, ça veut dire qu'en général, les hivers vont être plus chauds, les étés vont être plus chauds aussi.
Vous m'avez donné un exemple très frappant. Vous m'avez dit « Toronto va se retrouver à Manawan ». Est-ce que je vous ai bien entendu quand on s'en parlait au début?
Vous avez bien entendu, mais ça, c'est dans l'hypothèse d'un réchauffement où on ne fait rien. Si on ne fait rien, en 2070, le climat de Manawan, qui est en haut Lanaudière, si on veut, va se retrouver avec le climat de Toronto. Alors, on imagine qu'à Toronto, les épinettes noires ne se poussent pas. On imagine qu'à Toronto, très difficile d'avoir des salmonidés. On imagine que le cerf de Virginie va remplacer les autres cervidés. Bon, tous ces éléments-là sont en pleine transformation et on parle de quelques décennies. Donc, c'est un immense stress pour les écosystèmes et c'est jusqu'à un certain point un autre stress pour les populations humaines et les activités économiques. Voilà. On le voit déjà en Montérégie, où les centres de ski sont obligés de fonctionner avec des périodes qui sont réduites. Même en Estrie, on a des problèmes d'enneigement. Et puis, bon, c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va y avoir encore de la neige en 2070, 2080, même 2120, mais on va avoir un climat qui va avoir beaucoup changé et où les extrêmes climatiques qu'on avait autrefois vont être la moyenne de ce qu'on connaît, ce qu'on connaîtra à cette époque-là.
OK. Donc, les extrêmes vont devenir le pain quotidien en matière de météo chez vous. Mais ça donne quoi, là? En ce moment même, de toute façon, vous voyez des changements. Puis tout le monde connaît le Saguenay. Là, tous ceux qui nous écoutent connaissent quand même le Saguenay. En ce moment même, vous voyez des changements majeurs chez vous.
Oui, bien, on voit des changements, par exemple, des hivers qui sont particulièrement doux. On voit aussi des étés qui sont plus cléments. Cette année, la première gelée est arrivé lundi le 3, donc 3 octobre, alors que normalement, moi, dans ma jeunesse, quand j'avais 15-20 ans, c'était au 30 août, 15 août, où on avait la première gelée. Là. Donc, les jardins ne sont plus ce qu'ils étaient. Et même à Montréal, vous avez des périodes de canicule qui sont plus nombreuses, qui sont plus intenses aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 70.
Les cultivateurs ressentent aussi les effets du réchauffement climatique.
Le problème, il est au niveau des précipitations. C'est que les périodes de sécheresse sont plus intenses et plus longues, et souvent, les précipitations sont plus brutales, plus abondantes, et pour les agriculteurs, ça cause des problèmes pour la prédictibilité de la production. Par ailleurs, il n'y a rien qui empêche que même si on a eu un gel le 3 octobre cette année, rien qui empêche qu'on ait un gel le 2 septembre l'an prochain. Et de la même façon, au printemps, on peut avoir des gels qui arrivent au mois de juin, alors que dans les fêtes, autrefois, c'était normal d'avoir des gels qui arrivaient à cette période-là, puis on semait en conséquence. Là, aujourd'hui, on sème en conséquence des nouvelles saisons, des nouvelles variétés qu'on pense qu'ils vont produire mieux. Puis, on arrive avec des surprises. Alors, il y a des enjeux qui vont faire que l'approvisionnement alimentaire, de façon épisodique, va être perturbé.
Il y a une chose que vous avez, dont vous avez parlé ce matin, une chose que tous les Québécois connaissent, on n'est peut-être jamais allé, mais ce qu'on appelle la toundra, tous les Québécois ont une idée de ce que c'est. Et vous m'avez dit ce matin qu'il y avait là des changements majeurs, le mot est faible, là, des changements là, extraordinaires. Oui. Là.
C'est anecdotique, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans la toundra, c'est qu'il y a plus de neige qu'il y en avait autrefois et que le climat est moins dur qu'il était autrefois. Du côté, par exemple, de Koudjouak, l'augmentation des températures est déjà de l'ordre de 4 degrés par rapport à ce que c'était dans les années 70. Donc, dans cet écosystème de toundra, où il y avait de temps en temps une petite épinette noire, un cromolts à travers les saules nains et à travers le lichen, bien, ces épinettes noires-là sont recouvertes par la neige, les bourgeons ne gèlent plus, ne sont plus rasés par la glace, et à ce moment-là, les arbres poussent. Donc, il commence à y avoir des arbres qui peuvent atteindre 2, 3, 5 mètres dans la forêt, dans la zone qui était autrefois, il n'y a pas si longtemps, une zone toundrée, donc avec une végétation qui ne dépassait pas un mètre. Il y a beaucoup plus grave que ça dans le nord, c'est toute la question de la glace et la fonte qui dépendent de la glace. Vous avez tous vu les ours polaires. Les ours polaires, ils ont des saisons actuellement de glace qui sont insuffisantes pour leur permettre de se procurer assez de nourriture. Donc, la santé des populations d'ours polaires est menacée de ce côté-là.
On parle de la glace qui fond dans le nord. On va parler de l'eau parce que c'est majeur, c'est vraiment extrêmement important. On pourrait peut-être commencer à parler de l'eau du côté est, par exemple, de l'Amérique du Nord, puis du côté est de l'Amérique du Nord, on a la Gaspésie en ce qui nous concerne, on a les îles de la Madeleine. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à cause du réchauffement climatique à ces endroits qu'on connaît si bien, les Québécois?
Bien, en fait, C'est un enchaînement de phénomènes physiques. Premièrement, l'eau de l'océan est plus chaude qu'elle ne l'a jamais été. L'océan, c'est une grande batterie thermique, si on veut, dans laquelle l'énergie s'accumule. Et l'eau se dilate quand on la chauffe. Donc, dilater l'océan, ça veut dire qu'il prend plus de place. S'il prend plus de place, bien, le niveau va monter. On ajoute à ça que les glaciers continentaux, et en particulier le Groenland, sont en train de fondre et fondent à une grande vitesse. Et on a à peu près 18 cm d'augmentation du niveau de l'océan qui est déjà enregistré depuis un siècle. Et ce 18 cm-là, on prévoit qu'on va arriver à 50 cm au mieux si on fait tous les efforts, parce qu'on a déjà du réchauffement d'accumulé et l'océan réagit lentement. Donc, cette augmentation du niveau de l'océan, additionné du fait que l'hiver est plus doux, donc il y a moins de glace côtière, ça fait que les côtes sont soumises à l'érosion. L'eau, la vague arrive un peu plus haut et elle arrive un peu plus fort parce qu'il n'y a pas de glace côtière pour diminuer l'énergie de la vague. Vous avez donc des phénomènes d'érosion accélérés, en particulier aux îles de la Madeleine, partout dans le bas du fleuve, en Gaspésie, sur la côte nord, on est très affecté et on va être affecté encore plus dans les prochaines années, quoi qu'on fasse en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Parlez-moi rapidement, si vous le voulez bien, M. Villeneuve, de votre propre port, celui de Saguenay, celui de Québec, celui de Montréal. Je sais que ce n'est pas les mêmes bassins, là. Le port de Montréal est plus dépendant des Grands Lacs. Vous et Québec, c'est plus dépendant de l'océan, mais en gros, là, en quelques mots, qu'est-ce qui risque d'arriver à ces endroits-là?
Si vous êtes au niveau de la mer, et là je vais parler au niveau de Saguenay et de Québec, le quai est au niveau de la mer, et à ce moment-là, ça fait que vous avez une augmentation du niveau de la mer. Quand il y a des grandes marées d'équinoxe, l'eau commence à déborder par-dessus les installations portuaires. Si vous augmentez de 50 cm, ça veut dire que vous allez avoir les mêmes marées d'équinoxe et il va y avoir 50 cm d'eau. Et ça, c'est peut-être en 2050, 2060. Il y a donc des choses extrêmement importantes à faire en ce qui concerne l'adaptation des villes portuaires, des ports. Et on voit déjà, par exemple, que New York condamne complètement des quartiers qui vont être inondés, qui vont être détruits. Empêche qu'il y ait de la construction dans ces zones-là, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est condamné.
Ouf, on prévoit déjà que des pans entiers de la côte est américaine, par exemple, risquent de sombrer, là, risquent de disparaître sous l'eau.
Oui, oui, absolument, absolument, en particulier la Floride, où il y a la Floride n'a pas le plus haut promontoire en Floride à 100 mètres de hauteur. La majorité de la Floride est à faible hauteur et est très affectée par les tempêtes, par exemple, tropicales, cycloniques qu'on a à chaque année. Et les saisons des cyclones sont augmentées en termes de violence et en termes de fréquence par le réchauffement de l'océan.
Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que, par exemple, Pierre Craig peut faire. Alors, j'ai fait un petit calcul pour me rendre compte que j'émettais probablement dans mon ménage ici à Montréal entre 9 et 10, 11 tonnes, quelque chose comme ça, de GES par année. J'ai envie de vous demander, vous qui connaissez si bien la matière, vous en émettez combien?
Mais c'est quelque chose d'assez particulier parce que moi, je suis un peu comme un Olympien là-dedans. Là. Je mesure et je calcule et j'agis en fonction. À deux personnes, on doit émettre un peu moins d'une tonne à deux par année.
OK. Ça veut dire que moi, j'émets 9 à 10 fois plus de gaz à effet de serre que vous, puis probablement dans la bonne moyenne, là, dans une certaine moyenne. Parlons de l'alimentation, si vous le voulez bien. Là. J'aimerais que vous me refassiez l'histoire du steak. Est-ce que pouvez-vous me refaire en peu de mots l'histoire d'un steak?
OK, bon. Premièrement, l'empreinte carbone de la viande rouge est importante parce qu'on la fait à partir d'animaux ruminants. Les ruminants, dans leur digestion, produisent du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est 28 fois plus puissant que le CO2. Donc, chaque fois qu'on émet, en gros, là, une vache ou un bœuf de boucherie, ça émet autant qu'une auto qui fait 20 000 km par année. Okay? Par sa digestion.
Ah, ben, excusez-là.
Mais... ben non, c'est un fait. Là. Moi, je travaille avec des faits, avec des chiffres, avec des données. Donc, quand vous avez...
c'est des faits surprenants.
Ouais, ouais. Quand vous abattez votre bœuf, okay, et puis vous voulez en avoir juste un petit morceau, ben, il y en a au moins 25% qui va passer dans d'autres produits. La peau, les os, etc. Vous ne mangez pas ça. Alors, vous allez prendre des émissions de gaz à effet de serre, puis là, vous vous en allez vous attribuer jusqu'à ce que vous arriviez à avoir un kilo de viande pas d'os. Ben, un kilo de viande pas d'os, ça représente 27 kilos d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que le bœuf, il a été élevé ici au Saguenay, il est allé se faire abattre gentiment à Toronto, il a fait 3500 km avant d'arriver dans votre assiette, et ça fait des gaz à effet de serre pour le camion. Et ça prend aussi des gaz réfrigérants pour maintenir la viande à la température, garder la chaîne du froid. Ça prend des emballages de plastique, de styromousse. Tous ces éléments-là contribuent à l'empreinte carbone. Donc, c'est un des points chauds, si on veut, dans lequel on peut agir. Pas qu'il faut arrêter de consommer du bœuf, mais on a un endroit où on peut faire des gains faciles.
OK. Si je vous comprends bien, essayez de diminuer l'apport en protéines animales. Comme vous dites, on n'est pas obligé de tout virer vegan ou végétalien ou que sais-je, mais diminuer l'apport en protéines animales et essayer d'en remplacer une partie par des protéines végétales. L'autre point important, puis ça, tout le monde le sait, on le sait, ça, c'est le transport. C'est nos voitures, entre autres.
Ça, c'est le plus gros point. C'est que dans votre 9 à 10 tonnes de calcul, vous avez probablement 50% des émissions qui est liée au transport. Soit parce que votre voiture, chaque fois qu'elle consomme un litre d'essence, produit 2,35 kg de CO2, ou parce qu'à ce moment-là, avec 400 litres, là, vous avez en gros 400 litres une tonne. Donc, vous avez une empreinte qui est liée avec les carburants fossiles. Première place, l'automobile. Ensuite de ça, le chauffage, si vous avez un chauffage qui fonctionne avec des carburants fossiles. Et puis, vous avez une empreinte qui est aussi liée avec les voyages. Alors, si vous faites un aller-retour au-dessus de l'Atlantique, chaque passager émet à peu près l'équivalent d'une tonne de CO2. Il y a des calculateurs qui existent pour ça, que vous pouvez trouver facilement. Et vous indiquez votre origine, votre destination, il va vous donner la consommation. Puis, il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte, par exemple les nuages de haute altitude, parce qu'un vol Montréal-Toronto va produire des émissions un peu différentes d'un vol Montréal-Toronto.
Quand vous nous expliquez ça, M. Villeneuve, on comprend facilement. L'exemple du steak, là, c'est facile. Vous me parlez de l'auto, je comprends très bien. Vous me dites, vous, que vous émettez peut-être une tonne ou moins, alors que moi, j'en émets 9 fois plus que vous. Ça veut dire que je peux faire beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup mieux à condition qu'on m'explique, à condition qu'on me mobilise, à condition qu'on me suggère des trucs à faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gouvernements n'ont pas de programme. Puis, regardons la pandémie. En période de pandémie, on a été tous des bons garçons puis des bonnes filles. On a mis notre masque, on s'est fait vacciner, on a écouté les consignes. Bon. Quand on nous donne des consignes, puis qu'on nous dit « Hey, si vous ne les suivez pas, ça va être grave », ben, on le fait. Mais personne ne nous en parle.
C'est pas vrai qu'on ne nous en parle pas. On nous en parle, je pourrais vous citer des revendications de groupes écologistes qui datent de 20 ans, de 25 ans. Moi, ça fait, personnellement, là, ça fait 35 ans que je travaille sur cette problématique-là.
Ce que je veux dire, c'est que le mode d'emploi, vous pourriez me donner un mode d'emploi là, maintenant, oui. là, relativement facile à suivre, oui. et je suis sûr que d'ici un mois ou deux mois, ou je ne sais pas, je diminuerais de moitié. Bon, oui. Vous pourriez le faire, ce serait facile. Oui. Pourquoi le gouvernement du Québec n'engage-t-il pas Claude Villeneuve pour qu'il fasse un espèce de mode d'emploi télévisé, puis qu'il télévise ça à Télé-Québec où vous voulez, puis pour nous dire, voici ce que vous pouvez faire, les choses. Pourquoi les gouvernements, c'est pas compliqué, là. Vous me dites, là, diminuer ma consommation de viande rouge, puis vous me dites, voici ce que ça va donner. Quand vous me dites, voici ce que ça va donner, ah, ben là, je dis, mon Dieu, que c'est plein de bon sens, on va faire ça. Mais personne ne nous fait ce mode d'emploi qu'on pourrait suivre. C'est comme s'il n'y avait pas une volonté politique d'y arriver vraiment.
C'est pas évident, parce que les politiques sont dans une vision de continuité. Okay? Ils construisent sur des institutions qui sont déjà existantes. Ils construisent aussi sur la demande de population qui voit à court terme, mais n'a pas la conscience du long terme. Okay? La population veut avoir des autoroutes. Okay? Alors, la population veut avoir de la fluidité dans le transport. La population veut avoir du confort. Je prends juste un exemple très simple. Le gouvernement devrait interdire qu'on chauffe des terrasses avec du propane. C'est une affaire absolument ridicule. Nos ancêtres disaient, tu chauffes le dehors quand tu laissais la porte ou les fenêtres ouvertes, puis que le poêle chauffait. Bien, c'est exactement la même chose. On chauffe le dehors. C'est inacceptable comme comportement. Et puis, ça produit des gaz à effet de serre. Ça, ce serait une affaire qui serait facile à interdire, même par des villes. Mais ils ne vont pas le faire parce que les gens, ils veulent avoir leur confort, ils veulent avoir leur plaisir, ils veulent avoir leur terrasse. Puis, ils veulent... Ils ne voient pas le lien entre la consommation de propane et... Vous savez, une bonbonne okay. de propane, qui en a dit de 20 livres, là, ça produit 30 kilos de gaz à effet de serre.
Okay. Je vous pose une question, là, parce que je pense à Paris, puis j'ai vérifié tantôt... La mairesse de Paris, je pense que c'est Mme Hidalgo, mm-hmm. dit qu'elle veut interdire les moteurs à essence dans Paris d'ici la fin de 2030. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Est-ce que c'est réaliste?
Oui, oui, tout à fait. C'est réaliste et c'est une très bonne idée. Puis Mme Hidalgo, en passant, a interdit le chauffage extérieur avec des carburants fossiles. En principe, c'est que Premièrement, les voitures électriques commencent à être une option qui est tout à fait comparable en prix avec les voitures conventionnelles. Je ne dis pas que la voiture électrique n'est pas au prix d'une voiture un peu plus luxueuse, mais c'est dans les mêmes ordres de grandeur. Et avec les subventions gouvernementales, ça devient quelque chose d'abordable même pour une famille moyenne. Si vous aviez une voiture électrique, probablement que vous seriez capable de baisser vos émissions de 2 ou 3 tonnes comme ça, d'un coup. Donc, la voiture électrique a plusieurs avantages. Premièrement, elle est plus efficace du point de vue énergétique, du point de vue thermodynamique, surtout au Québec où on a de l'énergie de source renouvelable à 99%. Donc, vous avez un enjeu là qui est facile à comprendre. Les voitures, le ministre de l'Environnement aujourd'hui annonçait qu'il va interdire la vente de véhicules à combustion neufs à partir de 2035. Donc, il y a un très clair cheminement qui est là et il laisse jouer quand même les forces du marché, mais les fabricants commencent à avoir tous des modèles électriques. Puis, ces modèles-là, pour moi-même avoir des voitures hybride depuis 2003 et électrique depuis quand même un peu plus récemment, mais c'est une grande partie de l'empreinte carbone réduite qu'on peut avoir.
On va terminer, M. Villeneuve, en suggérant aux gens d'aller sur votre site qui s'appelle Carbone Boréal. Je suis allé voir rapidement, il y a plein de données, il y a des explications, il y a des méthodes pour calculer nos émissions. Il y a plein de choses sur ce site-là. Alors, on va conseiller aux gens d'aller faire un tour sur votre site. Il y a aussi d'autres sites, là. On n'a qu'à calculer, qu'à inscrire dans notre moteur de recherche, calcul des émissions de gaz à effet de serre. On trouve des outils pour calculer ça. Il y a moyen de le faire. Monsieur Villeneuve, ça a été trop court, mais extrêmement passionnant. Je vous remercie infiniment.
Ça me fait plaisir.
J'ai recalculé les émissions de gaz à effet de serre émises par mon ménage. Pour y arriver, vous pouvez utiliser le calculateur du site Carbone Boréal à l'onglet « Compenser ». J'ai aussi utilisé le calculateur du World Wildlife Fund, WWF, c'est facile à trouver. J'arrive à environ 15 tonnes par an pour mon ménage. Je vous rappelle que Claude Villeneuve et sa conjointe réussissent, eux, à émettre moins d'une tonne par année. Alors, en présumant qu'on se ressemble un petit peu tous, nous pourrions réduire de 15 fois, théoriquement, notre empreinte écologique. À la prochaine.